Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, il est midi et bienvenue dans All I Wanna Do sur Radio Pulsar. Dans cette émission, on vous propose chaque semaine une rencontre avec des porteuses et porteurs de projets innovants ou éthiquement engagés et celles et ceux qui les accompagnent sur ce parcours. Avec la complicité de nos partenaires, SPN, J'adopte un projet, Pépite, la mission locale d'insertion du Poitou, mais aussi KP, POP, ACASCOP, Scopadom, la BGE, France Active, le CRIJ Nouvelle-Aquitaine et depuis peu, Oriou. Aujourd'hui, on commence par vous parler d'addiction, réseaux sociaux, alcool, tabac, autant de produits qui, consommés en trop grande quantité, peuvent gâcher la vie et la santé. Les addictions sont encore méconnues du grand public et nous allons pouvoir en parler avec Sophie Deloume, qui en a fait sa spécialité. Elle est addictologue à Lussac-les-Châteaux, Lille-Jourdain et depuis peu Poitiers. C'est BGE qui l'a aidée à s'installer dans cette dernière ville. On va commencer tout de suite avec vous, Sophie, bonjour.
Bonjour Juliette.
Alors d'abord, les addictions, qu'est-ce que c'est ?
Ah, les addictions. On va dire que pour le faire simplement, on est sur des maladies biomédico-psychosociales, à savoir qu'elles sont très transdisciplinaires. Les addictions, depuis les années 90, elles ont beaucoup évolué, elles se sont beaucoup médicalisées, entre autres. Et on est sur des maladies cérébrales, comme j'aime à dire, et des maladies du lien et des maladies des émotions.
Est-ce qu'on peut être addict à tout ?
Non, non. Heureusement. Non, les addictions, elles ont cette scientificité. Je dirais qu'il y a des critères pour reconnaître qu'on est addict. On peut être dépendant sans forcément perdre le contrôle par rapport à un produit psychoactif ou par rapport à une conduite. Non, on ne peut pas être addict à tout. Il y a quand même une classification, j'oserais dire, au niveau de la CIM, au niveau de l'OMS, qui peut aussi nous donner des indications. Donc, une personne qui va arriver, qui se pose la question, nous, on est là, en tant que praticienne en addictologie, pour rassurer la personne ou pour lui dire oui, il y aura peut-être un travail ensemble à faire.
Et justement, c'est quoi les produits auxquels on est le plus addict ?
À l'heure actuelle, on reste encore sur les produits dits illicites. On parle plus de drogue douce, de drogue dure, comme dans les années 80. Ça a quand même beaucoup évolué, comme je disais, à partir des années 90. On garde encore dans l'esprit, en addictologie, sur tout ce qui est drogue, tout ce qui est licite et illicite. Donc, le plus, à l'heure actuelle, on est encore sur tabac-alcool. En sachant que le tabac est plus facilement repérable, hélas, un peu glauque de dire ça le lundi matin, mais par rapport au cancer des poumons, au niveau de l'alcool, c'est un peu mon coup de gueule, c'est complètement sous-évalué et très, très hypocrite. L'objectif au niveau de l'alcoologie, c'est pas de diaboliser le produit. On a une tradition viticole et alcoologique au niveau de l'alcool par rapport à en France, mais on est encore sur une banalisation du produit qui est terrible et qui est vraiment, au niveau épidémiologique, complètement sous-évalué. Donc c'est alcool, tabac encore. Après, au niveau de l'illicite, on a une entrée de la cocaïne depuis 10 ans. C'est pas nouveau, ça arrive. Après, il y a des produits quand même un peu plus, entre guillemets, marginal. Le protoxyde d'azote, qui concerne surtout des garçons. Après, on est sur la kétamine, on est sur tout ce qui est MDMA. Voilà, les nouveaux produits de synthèse. Voilà. Après, la majorité, non, c'est alcool, tabac qui font encore des ravages en France.
Comment vous êtes devenue addictologue ?
Ah, c'est une bonne question, ça. Ben, je dirais, au niveau du parcours, si je reviens un petit peu sur mon parcours, Juliette, je dirais que j'ai universitaire à la base, donc ça me fait des beaux souvenirs, Radio Pulsar, psycho, beaucoup de philosophie. Après, j'ai fait de l'accompagnement social et professionnel auprès de personnes en difficulté pendant une bonne quinzaine d'années sur Lyon. Et je pense, à partir de là, il y a eu l'envie de changer d'angle. En sachant que les addictions étaient déjà là quand même dans les années 90, je voulais beaucoup m'occuper de toxicomanes. Je pense que même moi, ça me faisait peur un peu au départ. Je pense que d'être passé par cet accompagnement individuel de personnes en difficulté, de changer d'angle, de me former en addictologie, le DU, un diplôme universitaire, interuniversitaire. J'ai voulu, moi, faire des stages, parce que j'ai un profil vraiment atypique par rapport à ce secteur. Mais c'est à partir de là que c'est né, et c'est vraiment donné du sens à ma vie, à mes accompagnements. C'est vraiment un problème de santé publique, et c'est aussi avoir une éthique dans mes accompagnements. C'est important pour moi.
Je disais tout à l'heure, vous êtes récemment installée à Poitiers. Comment ça se passe ?
Alors Poitiers, c'est micro pour l'instant. Non, pour l'instant, il y a eu le Sud-Vienne, parce que je me suis installée dans le Sud-Vienne il y a à peu près 2 ans. Je viens en Poitou depuis mais un an, donc c'est pas nouveau, je connais quand même le Poitou. Et dans le Sud-Vienne, oui, j'ai commencé avec une maison de santé sur Lussac, les Châteaux. C'est pas forcément bien entendu en milieu rural. Je pense qu'il y a encore un peu ces différences hein, en France entre le rural et l'urbain. Moi qui viens d'une grande métropole, c'est encore compliqué hein, les addictions en milieu rural. Et après Poitiers, là c'est maintenant, c'est récemment, hein, puisqu'on pourra en parler au niveau de l'accompagnement professionnel au niveau de BGE. Donc c'est tout récent au niveau de Poitiers. Je peux pas en dire grand chose pour l'instant.
Et justement, BGE, comment ils vous aident dans ce projet ?
Ah, ça se passe bien. Je peux saluer Élise Brûlé, qui fait partie des accompagnatrices. Oui, c'est important. Je pense que dès l'instant, on a une créa à réaliser, quelque chose à dire, quelque chose à faire qui nous tient véritablement à cœur. De le faire seul, c'est compliqué. Je pense qu'on a besoin de balises. Moi, je voyais, j'avais initié sur Lyon. Je n'avais pas cette chance d'avoir ce type de structure où il n'y avait pas cette qualité que je peux retrouver maintenant. On est très, très vite noyés. On est très vite noyé de faire seul ces démarches. Moi, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde dans le Sud-Vienne, mais j'ai brassé un monde fou. J'ai fait mes petits podcasts. J'ai fait Hebdo Addicto, une sorte de vignette où je présente l'évolution d'un patient à l'égard des médecins. Je peux le faire aussi au niveau des médecins de Poitiers. Mais oui, après, on a besoin de structurer. Il y a des étapes. Hein. Il y a le principe de réalité quand on veut créer quelque chose. Et on passe par des étapes pour voir vraiment si c'est viable et voir après si c'est la faisabilité. Et après, si ça peut être viable. Je pense que c'est important.
Et l'objectif sur Poitiers, ce serait d'ouvrir un cabinet ?
Oui, anonyme, entre guillemets. C'est-à-dire, plus on est discret en addictologie, mieux c'est. Il y a encore beaucoup, c'est méconnu, comme vous le disiez en introduction, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de honte. Il y a encore beaucoup de honte et je pense qu'il faut lever cette honte. Quand je disais que c'était sous-évalué par rapport à l'alcool, après, je pense qu'il y a un travail, on ne l'a pas dit, mais c'est vraiment bosser avec les médecins. Hein. On fait porter beaucoup de choses sur les médecins traitants en addictologie. Ils peuvent pas non plus tout porter, mais travailler en binôme avec eux ou avec des psychos par rapport à mon profil, c'est vraiment là où on peut faire avancer les patients. Ça, j'ai pu me rendre compte dans le Sud-Vienne. Mais plus le lieu est anonyme, plus le lieu est discret, mieux les gens pourront venir à moi. Donc voilà, c'est une deuxième étape d'ouvrir le cabinet, oui.
Et justement, vos méthodes de soins, de traitement, c'est quoi ?
Moi, je dirais que d'un côté, on reste sur le basique, la parole. On est vraiment sur un travail comportemental et un travail de parole. Quand on accueille un patient, c'est vraiment quelque part de dédramatiser, c'est vraiment de déstigmatiser, de sortir du jugement. Ce sont des personnes souvent qui culpabilisent. Donc on a ce qu'on appelle, nous, l'anamnèse, recueillir le maximum d'infos. Il faut savoir que des antécédents, l'addictologie, ça multiplie par 3 l'entrée dans les produits. Là, il y aura aussi de quoi dire. Et après, on est vraiment sur un travail de feedback. Moi, je rencontre les patients tous les 15 jours. On est vraiment sur un travail de le contexte, la quantité de consommation ou de pratiques addictives. Et à partir de là, on est vraiment sur... C'est vraiment déconstruire des habitudes qui étaient mises en place. Donc, si elle a l'appui du médecin à côté, c'est essentiel, parce que certains patients ont besoin de pharmaco, de traitement à côté, et de faire ce travail en parallèle sur le comportement. C'est faire bosser le patient. Et à l'heure actuelle, c'est dur de faire travailler les patients, je dirais, au niveau thérapeutique. On est habitué à une instantanéité au niveau de notre société. Donc, des fois, les patients vont vers des méthodes douces que je ne vais pas décrier directement ici aujourd'hui. Mais voilà, il y a des pratiques dites douces. C'est de l'effet placebo. Hein. Il n'y a pas de prof scientifique. La parole reste, je pense, que vraiment le nœud, la rencontre avec un thérapeute reste essentielle en addictologie.
Vous faites aussi de l'accompagnement pour les proches des personnes
touchées. Oui, du conseil, parce que j'ai pu avoir des familles. J'ai encore eu dernièrement un papa au téléphone, véritablement en souffrance. Il y a des situations qui sont catastrophiques, qui sont liées à l'argent, la plupart du temps, où on peut avoir un enfant qui est addict et au niveau de l'argent, de quémander de l'argent, de mettre un peu ses parents un peu en otage. Là, par contre, oui, ce que j'ai pu préciser aussi sur le site internet, je suis pas assistante sociale, je suis pas juriste, je suis pas avocate. Mais par contre, écouter la parole d'un proche qui est véritablement en souffrance et conseiller la personne et mieux comprendre les mécanismes addictifs, oui, c'est important. L'entourage peut avoir, on voit beaucoup dans les dynamiques de couple, souvent, j'ai pu voir, hein, c'est la compagne, l'épouse qui met la pression sur monsieur pour qu'il puisse arrêter une addiction. Oui, c'est important aussi d'utiliser, entre guillemets, une dynamique du couple dans des séances. C'est important aussi.
Et en dehors des consultations, vous faites des ateliers de sensibilisation. En quoi ça consiste ?
Ça consiste tout simplement pendant 2 heures avec un bon PowerPoint et d'expliquer pourquoi on consomme. c'est quoi une addiction, puisqu'il y a une méconnaissance, vraiment que les personnes se rendent compte de la réalité de ce que c'est. Je pense que dès l'instant où on connaît, on a beaucoup moins peur, c'est comme tout, on a beaucoup moins peur et on peut mieux appréhender ce qu'est une addiction. Plus on en parlera, mieux ce sera, quoi. Donc c'est aussi à nous, en addictologie, on est un peu les empêcheurs de tourner en rond. Donc une fois, j'avais assisté, pour anecdote, à un apéro réseau dans le sud de Vienne. C'était cocasse. Mais voilà, les personnes, il y a une méconnaissance où les gens vont dire « Ah, je suis addict au chocolat ». Il y a des réactions un peu maniaques, hein, par rapport aux addictions, quand même. Mais oui, l'atelier, j'y tiens beaucoup, hein. Ça dure, le plus classique, c'est celui qui dure 2 heures, où je peux expliquer le pourquoi on consomme. Je pense que, quand vous disiez comment je m'y prends avec les patients, au niveau de la parole, c'est vraiment de comprendre quelle est la fonction du produit ou de la conduite addictive dans l'existence de la personne. Une addiction, une dépendance ne s'installe pas comme ça par hasard. Donc la sensibilisation, oui, je pense que mieux on en fait. C'est dur de faire de la prévention. Hein, on a pu dire en off, le dernier clip du gouvernement est plutôt un peu nul à chier, quoi. On est sur la bonne vieille loi des années 70, où on met sur le même plan le délinquant avec le consommateur. Le consommateur est un malade, c'est pas un délinquant, hein. Faut le redire.
Eh bien, merci Sophie.
Merci Juliette et Radio Pulsar.